11h passée de 1 minute sur Radio Campus Tours. Chers auditeurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne. Et avec moi aujourd'hui en studio, j'ai le plaisir d'avoir deux invités et un nouveau chroniqueur, émission en partenariat avec l'INSERM. Alors je commence ce tour de table. Bonjour Damien Relier.
Bonjour à vous tous. Ça va bien.
Ça va bien. Alors, on est content de te retrouver parce que tu étais venu il y a quelques années déjà à Radio Campus dans le cadre d'un projet autour de l'alimentation, je crois.
Oui, tout à fait. Sur un sujet de banque alimentaire avec le déchet gaspillage.
Voilà, et tu avais fait une interview d'une chef, même chef.
Chef.
On ne se rappelle pas de son nom, là, ni l'un ni l'autre, donc on se regarde désespérément, mais voilà, ça nous reviendra.
De Stéphanie Lequelec.
Stéphanie Lequelec, exactement. Donc voilà, bien sûr, tout ça, c'est toujours un podcast sur notre site, donc on vous invite à aller réécouter tout ça. Donc tu es là dans cette émission avec moi pour interviewer nos deux chercheurs INSERM, donc le Centre d'études des pathologies respiratoires. Une unité INSERM U1100. Voilà, donc c'est Thomas Séché, bonjour.
Bonjour.
Et Aubin Picquiot, bonjour.
Bonjour à vous.
Voilà, merci à vous d'être venu ici. Donc vous faites partie de l'équipe numéro 3, c'est aérosolothérapie et biothérapie à visée respiratoire. Voilà, donc,
exactement.
Voilà, on salue au passage Madame Eusevourche, donc le docteur Eusevourche, qui est la directrice de cette unité. Donc, puisqu'on va se pencher dans cette émission sur les infections respiratoires, peut-être peut-on commencer par rappeler à nos auditeurs c'est quoi l'appareil respiratoire ? Donc, c'est quoi cette tuyauterie bronchique ? Comment ça fonctionne ?
Alors, ça ne démarre pas au niveau des bronches, justement.
Et ben voilà,
et oui. En fait, quand on parle des voies aériennes au sens large, il faut distinguer les voies aériennes supérieures et inférieures. Donc, dans les voies aériennes supérieures, on considère le nez et puis la bouche. Puisque en fait, c'est par là que les échanges aussi gazeux vont se faire. Et puis ensuite, vous avez les voies aériennes inférieures. Donc là, on va distinguer effectivement à partir de la trachée, les bronches, les bronchioles. Et puis si vous descendez de plus en plus bas dans l'arbre respiratoire, vous terminerez par la partie vraiment respiratoire avec la partie alvéolaire, où se font là, véritablement les échanges gazeux entre l'oxygène, le dioxyde de carbone. Donc il faut vraiment distinguer toutes les voies respiratoires depuis effectivement le nez jusqu'aux parties les plus terminales. Et ces deux parties-là ont vraiment des fonctionnalités différentes et vont être impactées aussi différemment par les différentes pathologies respiratoires.
Alors, sur quel endroit interviennent vos recherches en fait ?
Alors, encore une fois, ça va vraiment dépendre du contexte physiopathologique qu'on a envie de considérer. Il se trouve qu'au laboratoire, on est principalement focalisé sur les pathologies de type infectieuse. Il y a aussi une partie de l'activité de l'équipe du laboratoire qui tourne autour des pathologies inflammatoires. Et donc, elles vont se focaliser dans des endroits un petit peu différents des voies aériennes. La plupart des infections respiratoires ont comme, j'ai envie de dire, lieu de démarrage quand même les voies aériennes supérieures. Il se passe beaucoup de choses dans le nez. On avait eu tendance peut-être historiquement à un peu négliger cet organe-là pour se focaliser évidemment sur le poumon parce que la plupart des gens, une fois infectés, développent des pathologies qui ont vraiment un tropisme pulmonaire, la pneumonie hein, dont on a entendu assez largement parler avec le SARS-CoV-2. Mais en fait, cette phase-là est une phase peut-être un peu terminale et il s'est passé beaucoup de choses déjà dans le nez, à commencer en fait par les premiers événements d'infection en fait qui ont lieu à ce niveau-là.
Alors peut-être préciser, c'est quoi la différence entre infectieux et inflammatoire ?
Alors, infectieux, c'est qu'il y a besoin d'un agent pathogène, donc une bactérie, un virus, un champignon. C'est lui qui va médier les dommages, qui va provoquer les dommages chez l'hôte, alors qu'une pathologie inflammatoire, elle peut être totalement stérile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un événement infectieux, en fait. Des pathologies comme l'asthme, par exemple, des pathologies comme la fibrose idiopathique sont des pathologies dites inflammatoires. C'est vraiment votre réaction inflammatoire endogène qui provoque, en fait, les dommages au niveau tissulaire.
Est-ce que vous avez trouvé des solutions pour vaincre ces virus ?
Alors, pas nous directement, hein. on va être très clair, mais en tout cas, on travaille. Il y a déjà beaucoup de molécules thérapeutiques qui sont disponibles pour lutter contre, on va dire, les infections au sens large, hein, qu'elles soient virales ou bactériennes. Pour les infections bactériennes qui nous intéressent un petit peu plus avec Aubin, vous avez les antibiotiques, par exemple, qui sont connus depuis plus d'un siècle maintenant, enfin presque un siècle maintenant, pour justement combattre les infections respiratoires. Pour les infections virales, il y a un certain nombre de molécules qui ont été développées, qui sont des molécules dites antivirales. Et puis un petit peu plus récemment, nous on s'intéresse au sein de l'équipe à une nouvelle classe de molécules thérapeutiques qui sont les anticorps thérapeutiques. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais oui, il y a déjà en fait un portfolio, un panel de molécules qui sont déjà disponibles pour lutter contre ces infections. Après, il faut évidemment en permanence continuer à travailler sur ces sujets-là parce que les pathogènes s'adaptent, parce qu'il y a de nouveaux pathogènes qui émergent pour lesquels on n'a malheureusement pas de molécules disponibles. Ça a été le cas pour le SARS-CoV-2 au début de la pandémie. Donc il faut véritablement continuer à travailler sur ces questions-là.
D'ailleurs, on peut expliquer aussi pourquoi c'est important de travailler sur ces pathologies-là. C'est peut-être parce que ça touche aussi beaucoup de monde.
Ah oui, vous avez raison. Hein. Alors, si on considère les pathologies respiratoires au sens large, hein, c'est-à-dire infectieux, inflammatoires, elles sont considérées comme étant parmi les cinq premières grandes causes de mortalité à l'échelle mondiale. Hein. Donc, ça ne concerne pas évidemment que la France. Si on doit les classer, malheureusement, par gravité, on va retrouver le cancer. Hein, le cancer pulmonaire, ça reste quand même une source de mortalité à l'échelle mondiale très importante. Et puis, assez vite, on va retrouver les maladies infectieuses. Il y en a qui sont très connues déjà, hein, la tuberculose, par exemple. Et puis ensuite, des infections donc là qui sont plutôt des infections aiguës, les infections virales, la grippe, donc là évidemment avec la pandémie, le SARS-CoV-2, et puis on a aussi, donc on en parlait tout à l'heure, toutes les pathologies inflammatoires, l'asthme, les maladies chroniques comme la BPCO, la fibrose idiopathique. Donc il y a vraiment un panel assez large de pathologies différentes et qui effectivement, vous avez raison, concerne un nombre très important de patients à l'échelle mondiale et malheureusement provoque la mort aussi d'un grand nombre de personnes.
C'est quoi la BPCO ?
Alors la BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc c'est une maladie chronique, c'est-à-dire que on différencie en fait les maladies aiguës et les maladies chroniques sur la durée, la cinétique de cette maladie. Généralement, une maladie aiguë, vous êtes malade un certain temps, bon, on espère pour vous que vous êtes guéri, mais voilà, ça ne dure pas. Les maladies chroniques, malheureusement, elles durent relativement longtemps. On n'est pas clinicien avec Aubin, mais ce sont des contextes physiopathologiques qui nous intéressent parce qu'on cherche évidemment à développer des nouvelles stratégies thérapeutiques. Ces patients-là, généralement, en fait, ont un affaiblissement de leur capacité respiratoire qui sont liés en fait à un encombrement de leur bronches petit à petit, en fait, qui deviennent non fonctionnels et donc ils ont des difficultés de plus en plus importantes à pouvoir s'oxygéner et à respirer normalement.
Voilà, donc on suppose qu'il y a un impact important sur leur vie quotidienne, déjà parce que les efforts deviennent pénibles, mais aussi peut-être sur la possibilité de travailler, d'avoir des activités, j'allais dire, normales avec plein de guillemets.
Non, tout à fait. Hein. C'est vrai qu'on a tendance souvent à se focaliser sur la dangerosité en termes de mortalité, hein, mais il y a évidemment un impact sur la qualité de vie qui est très important, qui vous empêche évidemment de travailler, qui vous empêche d'avoir une vie sociale aussi épanouie que des personnes qui sont saines, évidemment. Vous avez aussi un impact sur les systèmes de santé, aussi au sens large. Hein, la prise en charge de ces patients-là, c'est une prise en charge au long cours. Hein, comme c'est une pathologie chronique, il faut évidemment les soigner pendant longtemps. Donc ça représente aussi un coût pour les systèmes de santé qui est non négligeable. Donc pour toutes ces raisons-là, il est vraiment essentiel de continuer la recherche autour du développement de nouvelles stratégies thérapeutiques.
Est-ce que aussi vous avez possibilité d'avoir des dons pour ces choses-là?
Alors, en direct au laboratoire, non. Par contre, on a recours pour le financement de ce type de projet à des associations de patients. On a beaucoup de relais de ce point de vue-là. Donc nous, plus spécifiquement au laboratoire, d'ailleurs on peut les citer d'ailleurs parce que c'est vrai qu'ils font un travail énorme, bah, typiquement sur la lutte contre le cancer pulmonaire, la Ligue contre le cancer en fait soutient énormément les équipes de recherche pour des thématiques peut-être un peu plus spécifiques. Nous on s'intéresse à alors une maladie dont on n'a pas parlé, une maladie pulmonaire dont on n'a pas parlé, qui est la mucoviscidose. On a une association qui s'appelle Vaincre la mucoviscidose qui soutient aussi beaucoup les projets de recherche. Donc oui, il y a des partenariats et des accords qui peuvent être établis avec les laboratoires de recherche pour financer nos travaux. Oui.
Je propose de faire une pause musicale avant de pouvoir revenir à cette unité INSERM, puisqu'on a dit que vous étiez l'équipe 3. On se doute bien qu'il y a une équipe 1 et une équipe 2.
Bien
vous allez pouvoir nous expliquer plus en détail comment ça fonctionne, voilà, qui fait quoi, comment s'organisent vos travaux de recherche, qui a quelles compétences. Et voilà, on va d'abord écouter un peu de musique. Et d'ailleurs, vous nous avez proposé des pauses musicales. Alors là, la première, ça va réveiller les gens, je crois. C'est assez décès. Pourquoi vous avez eu envie de nous faire écouter ça?
Bon, je suis un grand fan de rock au sens large, d'AC/DC en particulier, et voilà, c'était une petite dédicace pour mon fils qui est devenu aussi fan que moi.
Alors, on écoute AC/DC et on salue votre fils au passage. Voilà, on se retrouve tout de suite après ça dans la Méridienne.
TV screen.
coucou Radio Campus. Tu viens d'écouter TMT de ACDC. C'était le choix de notre invité Thomas Séché. Voilà, qui est venu avec Aubin Pithiaud. Donc, messieurs, vous travaillez tous les deux au laboratoire INSERM, le centre d'études des pathologies respiratoires. Voilà, équipe 3. Alors justement, équipe 3, est-ce que vous voulez nous expliquer comment fonctionne ce centre d'études? Que font les équipes 1, 2 et 3?
Donc, en effet, le centre d'études des pathologies respiratoires comporte aujourd'hui 3 équipes. La première équipe est plutôt dirigé pour étudier tout ce qui est les phénomènes inflammatoires et notamment dans le cadre d'infections, que ce soit des infections plutôt virales ou que ce soit des infections bactériennes, donc comme des infections à Streptococcus pneumoniae ou pendant donc toute cette période de Covid, donc quelques études également sur les réactions inflammatoires développées après avoir été infecté par le Covid, donc le SARS-CoV-2. L'équipe 2, elle étudie plutôt tous les phénomènes biochimiques qui se forment autour de la BPCO notamment, mais également d'autres maladies respiratoires, donc avec des qui sont, comment dire,
principalement centrées, ouais, autour des ce qu'on appelle des protéases, ouais, donc qui sont des enzymes qui sont naturellement produites par notre organisme, quoi. Un très très grand nombre de fonctions, mais qui dans certaines pathologies en fait sont dérégulées. Et donc on va avoir en fait soit une surproduction, une suractivation de ces protéases qui peuvent avoir des effets délétères en fait sur la fonction pulmonaire. Donc effectivement, comme le disait Aubin, ils ont été notamment associés aux maladies inflammatoires chroniques. Donc toujours pareil, on est dans des dérèglements finalement des réponses de l'hôte lui-même en fait, hein, du patient lui-même. Et donc cette équipe-là s'intéresse à tous ces aspects de régulation de ces réponses biochimiques. Donc vous voyez, on couvre, juste pour compléter ce que disait Aubin, le laboratoire est dirigé par le docteur Mustapha Sitar, et on couvre en fait un grand nombre d'aspects à la fois physiopathologiques sur les mécanismes, sur aussi les agents pathogènes en tant que tels. Alors on prétend évidemment pas être exhaustif, hein, parce qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux que ce qu'on est là, mais voilà, on s'intéresse principalement à des pathologies inflammatoires, à des pathologies infectieuses. Et un petit peu également le cancer pulmonaire.
Et donc pour en revenir aux 3 équipes, donc l'équipe 3 à laquelle donc Thomas et moi nous appartenons, donc c'est une équipe qui travaille donc sur l'aérosol thérapie et puis les biothérapies à visée respiratoire. Donc ce sont des thérapies donc de l'administration de molécules directement dans les voies aériennes, et donc par plusieurs mécanismes et surtout plusieurs outils qui sont développés. Et puis donc nous étudions ces biothérapies à visée respiratoire dans plusieurs types de contextes, notamment donc moi je travaille plus précisément dans un contexte d'infection bactérienne, mais nous avons également des collègues qui travaillent sur des contextes de cancer pulmonaire, et puis aussi vraiment tout ce qui est technologie pour justement délivrer toutes ces molécules directement dans les voies aériennes.
Voilà, donc en fait, pour parler de façon un peu terre à terre, c'est-à-dire qu'il y a, disons que c'est comme une chaîne de production, il y a des personnes qui cherchent, les réponses du corps humain dans certains contextes, d'autres qui vont travailler peut-être sur les agents pathogènes, et d'autres encore qui vont travailler sur le matériel, peut-être d'autres personnes qui travaillent sur des molécules pour guérir, en tout cas pour améliorer ou pour soigner, donc ça fait plein de compétences qui se suivent, comment ça marche?
Je pense que vous avez totalement bien résumé les choses, c'est-à-dire que si on veut, et c'est l'objectif de la plupart des équipes INSERM, hein, c'est évidemment notamment de développer des stratégies thérapeutiques face aux grands challenges dont on a parlé tout à l'heure. Il est primordial de connaître à la fois la cible, c'est-à-dire imaginons l'agent pathogène que vous souhaitez traiter. Il est primordial de connaître aussi les réponses de l'hôte face à cette infection. Il est primordial de connaître la molécule que vous souhaitez administrer. Et puis, il est aussi primordial de connaître la méthode et la manière dont vous allez l'administrer. Parce que ces 4 aspects-là vont être essentiels pour l'efficacité de votre stratégie thérapeutique future. Donc, c'est complètement ce que fait ce laboratoire. C'est-à-dire qu'on a une partie qui s'intéresse plutôt aux réponses de l'hôte, une partie qui s'intéresse plutôt à la physiologie de l'agent pathogène, une autre qui s'intéresse à la manière donc notre équipe d'administrer les molécules. Alors, on n'est pas un laboratoire on ne développe pas de molécules, hein, très clairement, c'est pas notre mission. Mais par contre, on peut adapter au travers de collaborations des molécules déjà existantes ou en cours de développement au travers de ce faisceau de connaissances qu'on a développé au sein du laboratoire.
D'ailleurs, vous précisiez tout à l'heure que vous n'êtes pas des médecins, enfin des cliniciens.
Non.
Donc peut-être, est-ce que vous voulez nous expliquer quels sont les différents métiers et compétences qu'on trouve dans ce laboratoire ? Parce qu'on, vu l'étendue des recherches, on imagine qu'il y a énormément de compétences différentes.
Alors là, c'est vrai, hein, l'avantage de notre laboratoire, je trouve, c'est qu'on est justement en interface directe avec les services hospitaliers. Donc déjà d'un point de vue géographique, hein, notre laboratoire est sur le campus de la faculté de médecine à côté de l'hôpital Bretonneau. Et dans la plupart de nos équipes, dans les trois équipes, en fait, on a un certain nombre de médecins qui sont avec nous, donc qui sont en fait des praticiens attachés à l'hôpital Bretonneau ou à l'hôpital Trousseau, mais qui exercent aussi des fonctions scientifiques et de recherche ou d'enseignement, et donc qui sont directement rattachés à nos équipes. Et donc en ça, on baigne en fait en permanence dans ce lien avec la clinique. Donc on a vraiment une recherche qui est certes fondamentale, mais qui est totalement intégrée en fait dans cette dynamique qui va vers le patient. Et de manière très concrète, hein, ces gens sont vraiment avec nous dans les équipes, participent à nos réunions, à l'élaboration de nos projets de recherche, nous permettent aussi d'avoir accès à des échantillons directement issus des patients pour pouvoir développer nos programmes de recherche. Donc on a vraiment comme ça une intégration avec les services cliniques, alors qu'on voilà, nous ne sommes pas des médecins. Ouais.
On peut aussi parler peut-être de toutes les personnes qui font les tests. J'imagine que vous avez des techniciens aussi, parce que vu l'étendue du travail, on imagine bien qu'il y a besoin de petites mains peut-être.
Oui, totalement. La plupart des équipes sont structurées à peu près de la même manière. On a un certain nombre soit de chercheurs, soit de d'enseignants-chercheurs, donc qui sont à la fois chercheurs et puis enseignants à l'Université de Tours. Donc notre laboratoire, et c'est vrai pour la plupart des laboratoires de recherche en France, nous sommes des unités mixtes de recherche, UMR, donc une association en fait entre l'INSERM et l'Université de Tours. Donc on a aussi en notre sein des personnels de l'Université de Tours, pas forcément que des personnels de l'INSERM. Donc on a ce premier groupe de personnel, et puis ensuite on va trouver évidemment aussi des ingénieurs, des techniciens, des personnels administratifs, et puis bah évidemment des gens comme Aubin, des étudiants à tout niveau, depuis le BTS jusqu'au master, master 1, master 2, et puis étudiante.
Ça veut dire quoi UMR ?
Unité mixte de recherche. C'est justement en fait pour préciser cette association qui parfois peut être... Là, je vous ai donné notre exemple où on est bipartite, mais qui peut être mixte. Hein. Il peut y avoir des UMR avec d'autres instituts de recherche français et puis des universités. Généralement, c'est toujours une association entre une université et un institut de recherche.
Alors, vous avez mentionné aussi le fait que ce travail avec le CHRU vous permet d'avoir des fois des échantillons ou des choses comme ça sur lesquelles travailler. Alors avant que nos auditeurs bondissent en disant « Oh, ils font des tests comme ça sur les gens en cachette », est-ce que vous pouvez justement expliquer comment ça se passe ? On imagine que les patients ou les familles sont évidemment prévenus. Est-ce que vous expérimentez peut-être des molécules ou du matériel ? Mais comment ça se met en place ?
Alors non, vous avez raison, hein, tout ça se fait dans un cadre réglementaire qui est très strict. Les échantillons dont nous pouvons avoir accès sont des échantillons qui, évidemment, sont issus des patients, mais qui ne changent en rien leur prise en charge thérapeutique. On ne participe pas, enfin, on peut le faire hein, dans d'autres aspects, mais encore une fois, on ne développe pas de molécules dans notre laboratoire, donc on ne participe pas directement à des essais cliniques, donc qui viseraient en fait à établir la preuve de concept de l'efficacité d'une molécule chez des patients. Par contre, l'intérêt d'avoir accès au service, c'est que on peut en fait, en fonction des pathologies et en fonction de la prise en charge des patients, avoir par exemple accès à un prélèvement de sang. Donc c'est quelque chose qui n'est pas invasif, qui est évidemment avec l'accord du patient et des familles, tout ça dans un cadre, encore une fois, réglementaire qui est très strict, mais qui est vraiment un plus parce que quand vous voulez justement vous approcher au plus près de la vérité, avoir la possibilité de travailler directement sur des échantillons humains, c'est quand même beaucoup plus pertinent que de le faire sur des stratégies in vitro classiques.
Et donc, on parlait d'aérosol. Alors, est-ce que vous voulez expliquer c'est quoi ? Parce que on disait tout à l'heure en antenne, peut-être les gens, ils ont vu ça dans les séries médicales à la télé, là, le masque.
Le masque, ou là. Ouais. Non, vous avez raison, hein. C'est vrai que Il y a une image qu'on aime bien utiliser des fois dans les présentations, c'est une petite photo issue de la série Dr House.
On
voit une dame, on voit une dame venir se plaindre de son asthme qu'elle n'arrive pas à contrôler, et puis donc le médecin lui demande comment elle se sert de sa Ventoline, et puis elle s'en sert comme si elle faisait un petit puff de parfum autour du cou, quoi. Donc oui, effectivement, les aérosols, en fait, c'est relativement, un petit point historique, c'est pas si nouveau que ça, en fait, hein. Mais de manière, on va dire, plus concrète, leur déploiement massif a été fait plutôt à partir des années 50. L'idée, en fait, c'est d'avoir une suspension de gouttelettes dans un gaz que vous allez ensuite inhaler. Donc après, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez comme gouttelettes, comme médicaments à l'intérieur. Et du coup, pour ce faire, il vous faut évidemment des dispositifs qui vont vous permettre de générer, en fait, ce nuage de gouttelettes qui va ensuite s'inhaler. Donc quand vous donniez l'exemple tout à l'heure du masque, finalement, le masque, ce n'est que la partie terminale, c'est l'interface qui va vous permettre d'inhaler. Mais finalement, le processus de génération de l'aérosol, il a eu lieu souvent avant. Alors si on rentre dans le détail, il y a des tas de méthodes pour générer les aérosols, mais rapidement, on va dire les quatre grands systèmes qui sont utilisés, bah, vous en parliez tout à l'heure, hein, donc les aérosols doseurs, donc, qui sont utilisés par exemple pour la Ventoline. Donc là, très clairement, vous avez un réservoir de liquide, en fait, avec un gaz sous pression qui va vous permettre, en fait, d'administrer une bouffée, en fait, de solution. Vous avez aussi ce qu'on appelle les inhalateurs à poudre. Là aussi, vous avez peut-être déjà vu, ce sont généralement des canistères que vous tournez et vous inspirez, en fait, vous inhalez directement une dose de votre médicament. Et puis ensuite, l'autre grande catégorie, alors nous qui nous intéresse un peu plus dans l'équipe parce qu'elle est vraiment adaptée aux molécules sur lesquelles on travaille, aux anticorps thérapeutiques, sont les nébuliseurs, donc qui vont provoquer, en fait, la création de ce nuage de gouttelettes que vous allez ensuite inhaler au travers d'une interface comme un masque, par exemple, ou d'autres types d'interfaces. Donc voilà, il y a trois grandes catégories. Alors, il y en a une quatrième et qui est plus anecdotique, on n'en parlera pas forcément là, mais qui sont là utilisées majoritairement, donc pour le traitement notamment, donc, de l'asthme, de la BPCO, et puis pour certaines infections, on a des antibiotiques qui sont administrés par nébulisation chez les patients infectés.
Est-ce que vous pouvez préciser, en fait, comment ça se met en place? Que là, bon, le masque, il y a un tuyau dans lequel passe... comment ça fonctionne, en fait? Comment s'installer? Il y a un obus d'air liquide, enfin, je dis n'importe quoi, mais du coup...
Alors,
comment,
Ouais, non, c'est vrai que ça peut paraître un peu... Alors, puis en plus, à la radio, c'est un peu compliqué. Il faudrait des schémas. Par exemple, pour les aérosols doseurs, donc vous avez souvent un embout buccal, hein, et vous allez tout simplement déclencher, en fait, le mécanisme. Et vous devez, par contre, donc c'est une des limites de ce genre de système, c'est que pour que la prise du médicament soit optimale, il faut que vous coordonniez, en fait, votre respiration avec la prise du médicament. Donc c'est ce qui est toujours un peu difficile, c'est-à-dire qu'il faut le faire en phase inspiratoire pour véritablement que le médicament pénètre dans les poumons. Donc ce qui fait que parfois il y a des gros soucis de ce qu'on appelle d'adhérence, en fait, au traitement, parce que les gens s'en servent mal. Il y a aussi certaines catégories de patients qui sont pas forcément les plus adaptés, les enfants par exemple, c'est toujours un petit peu différent. Alors il y a des solutions à ça, on peut mettre en place des interfaces, donc soit des chambres d'inhalation, c'est-à-dire que là vous n'avez plus directement le contact avec votre bouche, mais vous avez une espèce de petit tube en plastique qui va faire l'interface entre vous et la machine. Alors ça a l'avantage, en fait, de bypasser un peu ce problème de coordination, de respiration, parce qu'il y a une petite valve, en fait, qui va vous permettre justement de n'inspirer que en phase inspiratoire, justement. Et puis ensuite, pour les inhalateurs à poudre, c'est un peu plus simple parce que, en fait, le déclenchement est automatique et il se fait que en phase inspiratoire. Donc vous avez un petit peu moins de problèmes de ce point de vue-là. Et puis pour les nébuliseurs, alors là, les interfaces, elles peuvent être multiples, hein. Vous avez parlé du masque tout à l'heure. Ça peut être chez les patients en réanimation qui sont intubés, ventilés, par exemple. Ça peut être directement connecté, en fait, au système de respiration. Donc vous pouvez, en fait, directement aller administrer votre aérosol dans les tuyaux qui servent à la respiration des patients. Donc en termes d'interface, il y a un grand nombre d'interfaces possibles.
Et alors, est-ce que ces interfaces-là, elles ont une utilité particulière, c'est-à-dire est-ce qu'elles peuvent permettre des soins plus faciles sur certains types de patients? Donc vous mentionniez les enfants, mais on peut penser aux personnes âgées aussi.
Oui, c'est vrai, c'est totalement ça. Puis elles vont aussi permettre d'améliorer ce qu'on appelle le dépôt de l'aérosol dans les poumons. Donc là, il faut juste qu'on fasse un petit point là-dessus. C'est que quand vous générez ce nuage de gouttelettes, vous imaginez que vous allez avoir en fait des gouttelettes qui vont avoir des gammes de taille très différentes. Ça va évidemment dépendre du type de du type de générateur d'aérosol que vous utilisez, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez cibler en fait les alvéoles, donc vraiment la partie terminale des poumons, il va falloir en fait avoir des tailles de gouttelettes qui vont être réduites. Les gouttelettes avec les tailles les plus grosses vont avoir tendance à se déposer plutôt dans les voies aériennes supérieures. Si vous voulez descendre, il va falloir réduire la taille. Et donc ces interfaces-là dont on parlait tout à l'heure, elles ont aussi un autre avantage, c'est qu'elles vont sélectionner en quelque sorte un petit peu les tailles de gouttelettes. C'est-à-dire que les plus grosses vont retomber, parce qu'elles sont grosses, donc par gravité en fait elles vont tomber dans l'interface, et vous allez en fait faire passer que les petites gouttelettes, que les gouttelettes de petite taille, pardon. Donc à ce moment-là, vous allez plutôt maximiser le dépôt dans les voies aériennes inférieure, là où généralement en fait vous avez envie d'aller, parce que c'est là que se passe la plupart des dommages.
Et donc vous avez peut-être aussi des personnes dans votre équipe qui travaillent spécifiquement sur mesurer ce dépôt.
Totalement, on a quasiment la moitié de l'équipe en fait qui s'intéresse à ce qu'on appelle donc la métrologie des aérosols, donc véritablement caractériser en fait un aérosol au sortir du dispositif, avec l'idée derrière à la fois pour un aspect diagnostic de l'aérosol en question, mais aussi pour améliorer justement ce dépôt, toujours pareil, en essayant de caractériser au mieux les tailles moyennes des gouttelettes, et puis en testant aussi différents types de dispositifs qui peuvent nous être fournis par des collaborateurs, dans l'idée voilà, d'optimiser au maximum le dépôt pour emmener en fait la molécule thérapeutique qui est chargée en fait dans cet aérosol à l'endroit où on en a besoin.
Et alors il était question d'anticorps inhalés, voilà, enfin nous allons y venir. Et d'ailleurs, je crois, Aubin, que c'est votre thèse porte peu ou prou là-dessus. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui ressemble à Pseudomonas.
Oui,
barbare.
Tout à fait. Donc, moi, je suis doctorant dans l'équipe 3 du CEPR et donc je travaille sur les infections à Pseudomonas aeruginosa et plus précisément sur la caractérisation des réponses immunitaires faites après l'administration d'un anticorps thérapeutique. Donc, pour revenir sur l'anticorps thérapeutique, bien sûr. Donc c'est une molécule qui est dérivée d'immunoglobulines naturelles chez l'homme, donc qui sont de manière naturelle produites chez l'homme. Mais nous, donc, en laboratoire, on en produit spécifiquement ces immunoglobulines qui vont être dirigées contre des antigènes, donc des cibles d'une bactérie ou des cibles d'une cellule cancéreuse, par exemple. Et donc cet anticorps va être capable de se fixer spécifiquement à cette cible, présente soit sur la bactérie, le virus, ou donc sur la cellule cancéreuse, et donc va permettre d'entraîner un certain nombre de réponses immunitaires qui vont prendre en charge cette bactérie ou cette cellule cancéreuse et l'éliminer. Donc c'est d'où l'intérêt des anticorps thérapeutiques. C'est un traitement qui va être beaucoup plus spécifique que les antibiotiques, qui sont des molécules à spectre large et qui vont être dirigés contre un grand panel de bactéries, alors que ces anticorps thérapeutiques, on va pouvoir les diriger contre une seule molécule présente à la surface de ces bactéries. Et donc, moi, je travaille donc sur la caractérisation des réponses immunitaires après l'administration de cet anticorps thérapeutique directement donc dans le système pulmonaire, donc dans le système respiratoire. Alors, pourquoi les traitements actuels pour traiter en tout cas, toutes ces infections respiratoires sont majoritairement données par voie parentérale, donc c'est-à-dire soit en intraveineuse, soit de temps en temps en sous-cutané. Et il a été montré par plusieurs études que finalement, les molécules qui sont administrées dans ces voies-là, donc intraveineuse ou sous-cutanée, ont beaucoup de mal à passer une barrière qui existe entre le système systémique et donc le poumon. Et donc finalement, on va avoir tendance à augmenter la dose de ces anticorps, ou en tout cas de ce traitement, et finalement il va y en avoir très peu qui va passer cette barrière et très peu qui va se retrouver dans le poumon directement. Donc finalement vous allez injecter chez le patient en intraveineuse, donc quelque chose qui une injection qui est quand même plus ou moins invasive, un traitement qui finalement aura tendance à aller très peu dans le poumon et donc à pas forcément traiter l'infection ou le cancer pulmonaire. En mettant directement ces molécules et en les administrant directement dans les voies pulmonaires, donc on évite cette barrière et finalement la concentration de ces anticorps ou de ces molécules qu'on va administrer chez le patient, elle va se retrouver vraiment dans le poumon du patient. ce qui va nous permettre d'augmenter donc l'index thérapeutique, c'est-à-dire la concentration de notre anticorps ou de molécules dans le poumon directement, et donc finalement favoriser toutes les réponses immunitaires et donc favoriser surtout le traitement derrière, et donc permettre plus facilement et plus rapidement une baisse des symptômes et voire un meilleur traitement.
Donc c'est plus efficace, moins invasif et moins d'effets secondaires.
C'est ça.
J'ai tout résumé.
Exactement. Non, d'où l'intérêt de cette voie-là.
Des études ont montré, alors notamment pour les anticorps qui sont en fait, donc comme le disait Aubin, dérivés des immunoglobulines, donc des anticorps qu'on produit naturellement, que notre système immunitaire produit naturellement, sont des protéines qui sont très très grosses en fait. Et donc elles ont du mal à diffuser au travers des différentes barrières biologiques. Donc quand vous imaginez la mettre effectivement par infusion intraveineuse, il y a plusieurs études qui ont montré qu'il y avait une très très faible fraction de la dose administrée qui était capable d'atteindre le poumon. Or malheureusement dans les pathologies pulmonaires, c'est là qu'on a envie que la molécule arrive, puisque c'est là que se situe soit le réservoir de l'agent pathogène, soit les mécanismes inflammatoires ou en tout cas pathologiques qui endommagent donc la fonction pulmonaire. Donc l'idée, c'était relativement simple, c'est d'aller directement l'administrer là où il y en a besoin. Et en fait, c'est une stratégie, hein, de ces voies d'administration dites alternatives. C'est vrai que le compartiment sanguin a historiquement en fait été utilisé pour administrer les médicaments, mais ces stratégies dites de voies d'administration alternatives est de plus en plus utilisée parce qu'on s'aperçoit que effectivement, les molécules ont parfois du mal à atteindre, en partant du sang, le lieu là où on attend qu'elles soient efficaces.
Yes. Alors, est-ce que au niveau des prescripteurs, donc des médecins, est-ce qu'il y a ça devient une évidence d'utiliser cette voie-là, ou alors c'est encore compliqué?
C'est compliqué dans le sens où il faut d'abord faire une preuve au-delà de la preuve de laboratoire, il faut ensuite faire une preuve de développement clinique de l'efficacité de ces voies-là. Mais c'est en cours. Hein. Il y a un certain nombre, si on se focalise un tout petit peu sur les anticorps thérapeutiques, hein, il y a un certain nombre d'essais cliniques qui ont été faits avec des anticorps administrés par voie locale, par aérosol, pour le traitement d'un certain nombre de pathologies. Pour l'instant, il n'y en a pas encore qui sont sur le marché, mais très clairement, c'est un processus relativement long, hein, le processus de développement clinique d'une molécule, ça peut vous demander 10 à 15 ans parfois, donc il faut continuer à travailler à la fois sur l'optimisation de la molécule en tant que telle, on en parlait tout à l'heure, hein, à améliorer notre niveau de connaissance sur tous les aspects nécessaires à la compréhension de tous ces mécanismes, c'est fondamental pour la réussite de ce type d'approche.
Il y a alors des anticorps avec un effet vaccine-like, j'adore cette expression. Donc pourtant, un anticorps, ce n'est pas un vaccin. Donc justement, peut-être insister là-dessus, qu'est-ce que vous aimeriez en dire?
Alors effectivement, on distingue, en fait, il y a deux types d'approches. Il y a ce qu'on appelle les immunothérapies actives et passives. Alors dans immunothérapie, il y a deux mots. Il y a le mot donc immuno, système immunitaire, et puis thérapie, donc pour l'aspect soin. L'idée, c'est que ces deux molécules-là, en fait, vont agir sur le système immunitaire, mais à différents niveaux. Le vaccin, l'idée, c'est une idée d'éducation de votre système immunitaire. C'est-à-dire qu'on va vous immuniser pour éduquer votre système immunitaire à produire des immunoglobulines face à l'antigène qu'on vous aura administré, dans l'espoir que ça vous protégera le jour où vous rencontrerez véritablement le vrai agent pathogène. Les anticorps thérapeutiques, la finalité est un petit peu la même, sauf qu'en fait, on vous donne directement l'anticorps. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un système immunitaire pour produire directement l'anticorps, on vous le donne. Donc c'est ça la grosse différence entre les deux stratégies. Et la thèse d'Aubin, il en parlera mieux que moi, c'est justement finalement faire un lien entre les deux, c'est-à-dire qu'on est capable de montrer que les anticorps ont quelques potentialités en fait, de jouer le même rôle que les vaccins.
Oui, tout à fait. Donc, en effet, donc les premières études ont montré en effet que les anticorps, ils sont en effet capables de protéger l'organisme, en tout cas d'éliminer lors d'une première infection le pathogène. Donc moi, pour rappeler, je travaille dans un modèle d'infection à Pseudomonas aeruginosa, donc une bactérie qui provoque un certain nombre de pneumonies pouvant potentiellement conduire à la mort. Et donc, ce que nous, au laboratoire, on essaye de montrer et d'analyser, c'est surtout cet anticorps, il est aussi capable de protéger le poumon, même plusieurs mois après, contre une seconde infection par le même pathogène. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que sans remettre un nouveau traitement. C'est-à-dire que finalement, le traitement, le patient l'aura eu qu'une seule fois. On est capable de protéger le poumon contre une seconde infection par ce pathogène, Pseudomonas aeruginosa. Donc moi, maintenant, mon rôle, évidemment, donc, c'était faire la preuve de concept que ça fonctionnait. Et puis maintenant, c'est surtout de comprendre comment ça fonctionne, surtout. C'est ça le but de la recherche. Et puis finalement, une fois qu'on aura compris les mécanismes, eh bien, on pourra jouer sur ces mécanismes pour améliorer cet effet et donc potentiellement protéger plus longtemps ou protéger contre d'autres sous-types de bactéries.
Donc on imagine l'attente des associations de patients dont parlait Damien tout à l'heure, parce que là, on imagine qu'avec un traitement comme celui-là, il y a un gain en qualité de vie évident.
Oui, tout à fait. Et puis, pour revenir à ce que Thomas disait, donc notamment pour, à travers donc, vaincre la mucoviscidose, donc notamment pour des patients qui sont atteints de la mucoviscidose et qui ont donc des infections chroniques à Pseudomonas aeruginosa, c'est vrai qu'avoir un traitement ou en tout cas une molécule capable d'être administrée qu'une seule fois et puis protéger donc à répétition les infections à Pseudomonas aeruginosa, en effet, c'est certain que ça permettrait un confort de vie de ces patients qui ne seraient pas obligés pour chaque nouvelle infection de retourner à l'hôpital, de recevoir un nouveau traitement. Et puis voilà, non, c'est sûr.
Je propose de faire une seconde pause musicale. Alors là, on a un nouveau choix de nous inviter. Je crois que là, c'est un clin d'œil à la directrice de votre équipe.
Oui, c'est une dédicace pour Nathalie. Je lui avais laissé un choix sur les deux, donc c'est vraiment pour elle.
Alors, qu'est-ce qu'on écoute ?
On écoute les Red Hot Chili Peppers.
Voilà, en avant la musique.
Californication.
And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California.
Born in a destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I'm Sergeant Barry, while the break the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Firstborn unicorn.
Voilà, pause musicale dédiée au docteur Euse Wurch, donc directrice de l'équipe 3 du CEPR. Voilà, donc, nos deux invités sont là aujourd'hui, donc je le rappelle, Thomas Séché et Aubin Pitiot. Alors tout de même, on disait hors antenne qu'il y avait des choses qui étaient toujours bonnes à rappeler à nos auditeurs. Donc bah, déjà, le fameux slogan « les antibiotiques, c'est pas automatique ». Donc justement, vous disiez qu'il y avait un intérêt particulier des anticorps.
Ah oui, c'est vrai, notamment donc, dans le cadre de la lutte contre les infections respiratoires qui sont provoquées par des bactéries. Tout le monde a effectivement entendu ce slogan et il n'est pas rappelé, voire même martelé parfois pour rien. On a un vrai problème depuis 15 à 20 ans maintenant de ce qu'on appelle d'antibiorésistance, c'est-à-dire que la mauvaise utilisation ou la surutilisation depuis que ces antibiotiques ont été développés il y a un petit peu moins d'un siècle font que les agents pathogènes, les bactéries sont adaptées et donc elles résistent en fait à la plupart des antibiotiques qu'on utilise en clinique. Certaines, on a même des variants de bactéries, des souches de bactéries qui sont dites multirésistantes pour lesquelles on a plus de stratégie thérapeutique à notre disposition. Et l'intérêt des anticorps, c'est que leur mode d'action fait qu'ils n'induisent que très très peu, c'est très rare d'induire des résistances dans les populations bactériennes. Donc très clairement, ils pourraient servir, peut-être pas forcément à remplacer les antibiotiques qui ont encore totalement leur part dans les stratégies thérapeutiques, mais pourraient venir complètement en complément, voire en synergie en fait des antibiotiques en permettant de réduire par exemple les doses d'antibiotiques. Et donc en cela, de réduire potentiellement l'impact de l'antibiorésistance. Et c'est devenu vraiment un enjeu de santé publique majeur. Hein. Les projections à l'échelle nationale, européenne, voire mondiale des infections médiées par des pathogènes résistants ou multirésistants aux antibiotiques sont vraiment pas bonnes là, dans les dizaines d'années à venir. Donc il est vraiment important de continuer à travailler autour de stratégies alternatives, en tout cas aux antibiotiques, et les anticorps en font partie.
Alors, avant de crier au miracle, quand même, je pense qu'il était intéressant de rappeler que les anticorps, bah, c'est cher et c'est difficile à manipuler.
Oui, effectivement, ça reste comme la plupart de cette catégorie de médicaments, on les appelle les biothérapies, parce qu'en fait, ce sont des thérapies dérivées du vivant. On n'est pas sur des petites molécules issues de la synthèse chimique. Donc elles sont beaucoup plus complexes en termes de structure que des petites molécules, et donc en cela les systèmes de production qu'on utilise sont des systèmes de production vivants aussi, hein. Donc c'est forcément des systèmes qui sont beaucoup plus coûteux que du Lego chimique, j'ai envie de dire, avec tout le respect que je dois à nos amis chimistes. Et donc forcément, in fine, pour les systèmes de santé, ça a un coût important qu'il faut aussi réussir à assumer. Donc ça, c'est une des limites relativement importantes de ces stratégies thérapeutiques à base d'anticorps. L'autre limite, alors nous, qui nous concerne un petit peu plus, puisqu'on est dans l'administration pulmonaire des anticorps, c'est que les anticorps sont, comme je le disais, des protéines assez complexes et ils résistent assez mal, ou en tout cas pas, il faut l'optimiser, au processus justement d'aérosolisation. Donc générer un aérosol d'une protéine comme un anticorps, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et donc c'est pour ça aussi qu'une partie de notre équipe s'attache à développer des stratégies donc de, d'optimisation de cette, cet aérosol de, d'anticorps pour le rendre en fait, en tout cas pour le protéger, et puis s'assurer encore une fois que bah, le maximum d'anticorps soit délivré au bon endroit.
Voilà, et donc je pense que vous souhaitiez aussi insister sur le fait que la recherche c'est du temps long, donc c'est pas demain que vous pourrez aller chercher ce traitement dans la pharmacie la plus proche de chez vous.
Non, c'est sûr que c'est parfois même peut-être un peu frustrant pour les chercheurs, mais c'est une notion qu'il faut quand même garder, garder en tête, et on le disait finalement tout à l'heure, hein, c'est vraiment une conjonction de... d'efforts scientifiques et intellectuels dans des domaines qui sont très différents, hein, qui recouvrent à la fois l'immunologie, la santé publique, la microbiologie, l'ingénierie quand on parle des dispositifs, la physique aussi tout simplement, hein, parce que on parlait tout à l'heure de comment se dépose un aérosol en fonction de la taille des particules dans les voies respiratoires. Là, on est dans des notions de pure physique, hein. On va parler de sédimentation, d'impaction, et donc il faut vraiment réussir à fédérer en fait toutes ces connaissances pour être certains, et il n'y a pas de certitude évidemment, mais pour au moins espérer en fait avoir une réponse pertinente face aux enjeux de santé publique dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, très clairement, ça prend du temps, et donc il faut aussi que qu'on ait un soutien sur le temps long, hein, dans les unités de recherche pour qu'on puisse continuer à travailler autour de ces thématiques.
Alors précisément, qui vous donne des sous sur les travaux en cours?
L'INSERM de Rechef, hein, on est une unité INSERM. On a évidemment aussi en tant qu'UMR des financements de la part de l'université de Tours. Et puis ensuite, c'est une part non négligeable de l'activité des chercheurs, qui est aussi d'aller chercher de l'argent en fait à l'extérieur des laboratoires. Donc on en parlait tout à l'heure, auprès des associations de patients, auprès d'organismes publics de financement de la recherche, donc l'ANR notamment, l'Agence nationale de la recherche, auprès de l'Europe aussi, qui est un financeur aussi important de la recherche publique. Mais c'est un exercice qui est difficile, qui est long aussi, qui est très frustrant aussi quand vos projets de recherche ne sont pas financés. Mais ça fait partie désormais du jeu, et encore une fois d'une part non négligeable de notre activité. Ouais.
L'AFM en fait partie.
Pardon.
L'AFM Téléthon en fait partie aussi.
Oui, tout à fait. Oui. L'AFM. Il y a une liste non exhaustive de financeurs, hein, la Fondation pour la recherche médicale, il y en a beaucoup, oui. Mais voilà, il faut aussi comprendre que ces associations, ces regroupements ont des fonds limités, et donc ils doivent évidemment sélectionner en fait les projets qu'ils souhaitent financer. Donc il y a une espèce de compétition en fait qui s'établit en fonction des projets de recherche, des équipes, des thématiques. Donc il faut c'est la règle du jeu, il faut s'y astreindre.
Alors quand même, on peut rappeler au passage que le CERP équipe aux multiples brevets, puisqu'on trouve sur sur votre site, on voit la liste des brevets qui ont été déposés par vos équipes. Quand même, on peut quand même se sentir fier légitimement.
Complètement. C'est aussi une manière à nous de montrer auprès à la fois de nos instances, mais aussi auprès du grand public, et puis aussi auprès de collaborateurs futurs, que la recherche qu'on fait est de qualité et qu'elle avance. Donc c'est vrai que c'est primordial. D'un point de vue plus personnel, moi, je suis arrivé dans l'équipe en 2016. C'est vrai que la notion de valorisation de la recherche au travers des brevets, c'était quelque chose que je connaissais assez peu, étant dans des équipes au préalable qui étaient vraiment dans la recherche fondamentale pure et dure, donc pour lesquelles la seule publication scientifique en fait avait valeur de valorisation scientifique. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que les valorisations de type brevet, notamment pour ensuite aller négocier des partenariats avec des industriels, c'est particulièrement important. Donc c'est aussi une des spécificités de notre équipe. Et effectivement, on a de quoi en être fier.
Bien, merci beaucoup à vous d'être venu dans cette émission. Alors je me tourne vers Aubin Picquiot. Que va-t-il advenir de vous une fois votre thèse terminée?
Ça, c'est une bonne question, mais l'objectif est que je continue mon parcours scientifique, puisque c'est ce que j'aime faire, la science. J'y prends beaucoup de plaisir, même si, comme Thomas l'a rappelé, des fois c'est un peu long. Il y a des choses qui ne se passent pas exactement comme on aimerait qu'elles se passent, et voilà. Mais c'est vrai que trouver quand même de temps en temps une petite réponse aux questions qu'on se pose et qui entraînent d'autres questions derrière, c'est assez enrichissant. Et puis voilà, donc après la thèse, ça sera sûrement un postdoc à l'étranger, donc pour justement parfaire cette éducation scientifique, mais dans d'autres horizons, donc voir aussi ce qui se passe ailleurs qu'en France, qui est aujourd'hui, je pense en tout cas, une plus-value pour les scientifiques.
Et un passage obligé ?
Un passage obligé, tout à fait.
Oh, je modulerai. Je n'ai pas fait de postdoc à l'étranger.
C'est vrai, tu as tout à fait raison, Mougéric. Mais 90%, aujourd'hui, les gens qui sont dans la recherche, 90% sont partis. Alors, peut-être pas pour un postdoc, mais sont partis en tout cas un peu de temps à l'étranger. Ne serait-ce que pour avoir des contacts aussi à l'étranger et pour se faire. Parce que la recherche, c'est quand même un travail d'équipe. Et que ça soit équipe au sein du laboratoire, mais aussi équipe à travers des partenariats avec d'autres équipes de recherche dans le monde entier. Donc c'est bien aussi de voir ailleurs et puis de se faire des partenaires et puis voilà quoi.
Merci à vous deux. Alors je vais laisser le mot de la fin à Damien.
Eh bien merci beaucoup à vous d'être venu vous déplacer.
Merci.
Et puis d'être bon vent à vous.
Là, on mettra en lien de ce podcast le lien vers les activités de votre équipe. Et je vous propose de terminer cette émission en écoutant un titre qui est playlisté à Radio Campus par notre super équipe de programmation musicale. Voilà, c'est une musique d'actualité, ça s'appelle Crise économique et c'est une chanson de Hilarion Nguema. Bonne journée à tous, à l'écoute de nos excellents programmes. Et merci encore à nos chercheurs invités. Ah oui, je remercie aussi Monsieur Escoffre, voilà, puisque c'est lui qui coordonne ces belles émissions avec l'INSERM. Merci à lui et bonne journée à tous et à toutes.
Si j'avais fait des bonnes études de langue française, comme Cédar Senghor, je saurais peut-être. Si je savais parler français comme Aimé Césaire, je saurais peut-être l'explication du mot conjoncture. Je pouvais devenir un jour grand économiste, comme Monsieur Jacques Delors ou Monsieur Raymond Barre. Je chercherais la solution pour stopper cette crise. Vraiment, mes amis, mais je n'y peux rien. Ou Félix au Fouet-Poigny, je m'en irai dans tous les pays du monde entier et leur expliquer que la crise n'est pas éternelle. Thank you.
Dans tous les discours de la politique actuelle, même la Banque mondiale déplore cette crise.
We'll be right back.